C'est la deuxième heure de ce 1296e Sweet Home Chicago. L'invité est Richard Koechly, infatigable, profondément passionné, extrêmement doué à la fois pour la guitare, le chant et l'écriture. L'intarissable artiste suisse Richard Koechly nous parle de son copieux ouvrage Mark Knopfler, l'analyse d'une œuvre, sous-titrée Barde Celtique, guitare héros, mélodiste sensible, superstar. 535 pages constituent le volume 1 dans sa traduction en français qui s'intéresse à la période 1949-1995. Dans cet ouvrage remarquable, la carrière de Dire Straits y est disséquée, minutieusement analysée et le récit archi-documenté est régulièrement complété par des parallèles à sa propre expérience, à Richard Koechly, l'auteur. Mark Knopfler, comme vous ne l'avez jamais lu, cette interview passionnante et largement illustrée musicalement reprend des passages du livre et nous éclaire sur quelques épisodes de la vie de cet artiste hors du commun. Dans cette seconde partie, on évoque ensemble ce qu'est vraiment le feeling laid back, inspiré par son pionnier J.J. Cale et réapproprié par Mark Knopfler. On attaque l'écoute de Communiquer, l'album de 1979, et de Making Movies en 1980, les deuxième et troisième albums de Dire Straits. On parle du départ de David Knopfler du groupe, de la collaboration de Mark Knopfler à l'œuvre de Bob Dylan. On parle également d'Albert King. Je soumets également Richard Koechly à un petit blind test. On parle aussi de son album préféré de Dire Straits, du pianiste Roy Beaton qui a considérablement contribué à sa richesse et à sa beauté, et on évoque la personnalité et la voix caractéristique de Mark Knopfler avant de parler projet pour 2026, avec notamment l'écriture du tome 2 de ce travail de roman effectué par Richard Koechly sur son artiste favori. Montée en deux épisodes, la première partie de cette interview fleuve a été diffusée samedi dernier, mais elle est bien sûr disponible en podcast et en Mixcloud sur bluesradio.fr. Voici la deuxième partie. Richard Koechly, on continue à survoler en profondeur ton livre Mark Knopfler, l'analyse du l'œuvre. Mark Knopfler, barde celtique, dis-tu, guitare héros, mélodiste sensible et superstar. C'est vrai qu'il est tout ça à la fois. Il a mis des années à bâtir le fait qu'il mérite tous ces qualificatifs. Et tu parles de ce qu'on appelle le feeling laid back, qui qualifie à la fois une partie du travail de Mark Knopfler, l'univers entier de J.J. Cale, j'ai envie de dire, et puis ton propre univers musical, Richard. Quel pont est-ce que tu jettes entre les Britanniques, Mark Knopfler et Eric Clapton aussi, d'une part, et puis la scène de Tulsa, d'autre part, avec J.J. Cale, avec maintenant Seth Lee Jones ou Paul Benjamin, il y en a encore beaucoup d'autres. Well, I've been on the street since yesterday. Hey, looking for the woman that got away. Hey, long-legged thing, red dress on. The kind of woman you can't leave alone. Listen, if you see her, send her my way. Looking for the woman.
Ben, je pense que à la racine, ce feeling laid back, il est vraiment venu là-bas, de Tulsa, en Amérique. Et c'était là-bas où ils ont joué ce style absolument naturellement. Et les Anglais et nous, les Européens, après, Eric Clapton, Mark Knopfler et les autres, ont essayé de s'adapter cette façon aussi. Mais c'était après une grande concentration, de vouloir le faire, de vouloir être Leifpak et Leka du Talza, il l'était vraiment naturellement. Ils ont incarné cette façon d'être cool, d'être petit peu en retard avec les notes, mais pas assez qu'on sent que c'est en retard. Cette nuance vraiment aussi de mélanger les cultures noires et les cultures blanches. Et on peut l'apprendre aussi, ce style. Et Mark Knopfler et Eric Clapton l'ont fait avec excellence, mais à tous ans, il l'incarne, ça simplement. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long, long hair.
Tout à fait. Et alors, y a d'autres artistes qu'on peut citer. Je peux également te parler de Dom Ferrer en France. Je ne sais pas si tu connais Dom Ferrer.
J'ai écouté, oui. Ouais. Excellent aussi.
Question annexe à ça, qu'est-ce que tu penses de l'album qu'ont fait ensemble J.J. Cale et Eric Clapton il y a quelques années ?
Alors là, c'est un excellent album que j'aime, j'écoute beaucoup encore. C'est peut-être pas le meilleur album de J.J. Cale.
C'est peut-être pas le meilleur album de Eric Clapton non plus, ceci dit.
Oui, je sais pas, mais...
C'est compliqué.
Oui, j'aime pas vraiment juger les albums les uns contre les autres, mais c'est un excellent album. Et on sent que Eric Clapton a eu cette grande admiration pour J.J. Cale. Et si, je trouve ça vraiment... C'est important qu'ils l'ont fait ensemble. Je pense que les deux, ils ont beaucoup profité l'un de l'autre. J.J. Cale a eu Eric Clapton comme assurance de vie, on va dire. Et Eric Clapton a eu J.J. Cale comme inspiration de la vie, on va dire.
Ça, c'est magnifique ce que tu viens de dire, Richard.
Ouais.
On arrive à page 227 de ton livre où tu parles de l'album Communiqué, qui est le second album de Dire Straits, qui a été largement décortiqué par beaucoup de gens sur Internet. Encore une fois, tu as pris beaucoup de temps pour collecter toutes ces informations. Et la trace de ces analyses-là t'a beaucoup servi, on le sent hein, quand tu écris. Je voulais savoir comment tu t'y es pris pour établir comme ça une synthèse de toute cette masse gigantesque d'informations.
Je sais pas comment je le fais par feeling, j'ai pas vraiment un concept.
Est-ce que dans la collecte, il y a aussi la notion de tri, au fur et à mesure, tu te dis non, ça c'est trop, je vais pas le prendre parce que ça va me faire trop de choses?
Oui et non, mais ça arrive aussi que je fasse un virage, quelque part, je découvre encore un détail, et après je me perds, après je reviens sur la route, et je fais ça avec un plaisir, c'est un petit peu comme une aventure, un voyage. Je pense aussi aux lecteurs, évidemment, est-ce que ça les intéresse, est-ce que c'est trop ou non, et j'essaie aussi d'interagir avec les lecteurs imaginaires.
Oui.
Ça m'intéresse aussi.
Thank you. C'est tout ce qui est arrivé à David Knopfler, on va dire assez vite dans la carrière de Dire Straits. Et page 228, tu soulignes quand même son travail. Tu écris, ouvre les guillemets, le travail de David Knopfler est également remarquable. Sa guitare rythmique est d'une grande précision et s'adapte parfaitement aux chansons. J'allais dire, pour prolonger cette phrase, s'adapte parfaitement aux chansons de son frère, Mark Knopfler. En quoi est-ce que la guitare de David est particulièrement remarquable ?
Bon, c'est simple. Il incarne vraiment le guitariste rythmique qui est modeste, qui veut pas être...
Le faire valoir.
Exactement, oui. Qui est vraiment là pour servir cette chanson.
Oui.
Et qui est dans le groove et qui veut pas être le frontman. Et ça, c'est une grande qualité. Et le monde admire les guitaristes en solo, mais les guitaristes rythmiques ne sont pas assez valorisé,
c'est vrai,
je
c'est
pense.
Vrai.
Belladonna's on the high street, her breasts upon the offbeat, and the stalls are just the sideshows. Victoriana's old clothes, and yes, her jeans are tight now. Gotta travel light now. She got to turn up all the roots now. She gotta turn up all the boots now. Yeah, she thinks she's tough. She ain't no English rose. But the blind singer, he's seen enough. Do a song. escaping from a sector. And Belladonna lingers. Her gloves, they got no fingers. Yeah, the blind man saying Irish. He get his money in a tin dish. Just a corner serenade upon a time he could have made up. She's tough, she ain't no English rose. Oh, but that blind singer, he's seen enough and he knows. Yes, and do a song about a long gone Irish girl. Oh, I got one for you, Portobello. And the parakeet squawking upon a truck, there's a rhino. She get the crying of a rhino. And then she hit a reggae rumble. Belladonna's in the jungle. But she is no garden flower. There is no distress in the tower.
Richard Kesley, page 243, tu parles d'un problème d'ampli qui a eu lieu pendant qu'ils enregistraient à Nassau, Bahamas, un ampli qui aurait été prêté probablement, dis-tu, par Robert Palmer. En tant que musicien, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le fait de ne pas disposer du bon ampli peut jouer sur le confort de jeu d'une guitariste?
Ben là, c'est vraiment un petit peu le guitariste, il a la guitare, mais il a aussi son ampli, et les trois, le guitariste, la guitare et l'ampli, c'est une trinité, on va dire, presque.
Oui.
On connaît vraiment son ampli aussi par cœur. On sait exactement comment il sonne, comment il réagit. Et c'est une interaction toujours. Et quand on a un autre ampli, c'est une nuance qui est partie, qui n'est pas là. Et on est obligé de s'adapter. Et ça, c'est pas toujours facile aussi.
Ouais. D'où l'importance de faire un bon soundcheck, une bonne balance avant, quand on ne dispose pas de son propre matériel à 100% en fait. Hein.
Ah oui, absolument, ouais.
Alors, un peu plus loin dans le livre, tu parles de la participation de Mark Knopfler à l'album de Bob Dylan, Slow Train Coming.
You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion. The world, you may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have
Ça, c'est assez symptomatique de ce que, à mon avis, chaque musicien qui enregistre peut ressentir à propos du mixage d'un album. Est-ce que tu peux expliquer à quel moment, selon toi, un artiste doit laisser la bride sur le cou à l'ingénieur du son ?
Il y a deux types d'artistes. Il y a les artistes qui aiment eux-mêmes faire chaque décision ou eux-mêmes mixer un morceau. Et ça, c'est un petit peu ma façon. J'ai toujours enregistré et mixé la musique seul. C'est une façon de bosser. Et il y a d'autres artistes qui disent ça m'intéresse pas du tout, j'ai confiance à l'ingénieur du son et je le laisse faire complètement.
Ouais.
Et je joue la musique et le reste, faites le boulot. Et je pense que Mark Knopfler est aussi un petit peu le type qui aime vraiment aussi mixer, qui aime arranger, parce que mixer, c'est arranger aussi, c'est une partie de l'arrangement, le mixage. Et lui, il est très autoritaire aussi un petit peu, mais une bonne façon de vouloir décider exactement comment le morceau il sonne et quel instrument est où dans le mixage, à quelle présence et quel effet et tout ça. Et ça, c'est un travail vraiment délicat.
De toute façon, il y a plusieurs sortes de réponses. Certains musiciens te disent effectivement on va faire confiance à 100% parce que c'est son travail. Et puis il y a des groupes entiers, 4 ou 5 musiciens qui vont se placer physiquement derrière l'ingé son pour chaque étape du mixage, qui vont être là, quitte à ce que la tension monte dans le studio. Enfin, je me souviens d'une interview qui parlait de ça. Et puis, Mark Knopfler, qui a produit quelques années plus tard l'album Infidels de Dylan, tu as écrit, ouvrez les guillemets, Mark aurait été plutôt frustré par le résultat final. Mais c'est comme ça que ces boulots se passent. Il vaut mieux ne pas s'énerver pour un mixage qu'on n'en pas fait soi-même. C'est plus facile à dire qu'à faire, dis-tu.
Ouais, exactement. Mais avec l'âge, on arrive à être cool, je pense. Mais je me rappelle que cette frustration, je la connais aussi quand quelqu'un d'autre mixe un morceau que t'as joué dessus et après c'était vraiment autre chose que tu imaginais. Mais faut laisser aussi faire parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de mixer. Quand il y a 10 qui mixent un morceau, il y a 10 versions après et chaque version a ses qualités après.
Et chaque ingénieur du son a sa propre signature également. Hein.
Oui, exactement.
Gonna Serve Somebody, là c'est la version de Richard que je dis.
Un petit peu plus loin, on continue à analyser l'œuvre de Mark Knopfler, mais elle interfère avec celle de Bob Dylan. Donc désolé, je reviens sur à nouveau l'album de Bob Dylan. À un moment donné, Jerry Wexler ou Bob Dylan avaient vraiment voulu la guitare caractéristique d'Albert King sur ce morceau. Et tu te poses la question, pourquoi ne pas avoir simplement demandé à Albert King ? Il aurait tout à fait été capable de le faire et tu détailles pourquoi, parce qu'à cette époque-là, évidemment, il était en pleine gloire. Tu évoques donc le blues, Albert King. Est-ce qu'on peut faire un peu de science-fiction ? Est-ce que tu peux imaginer le mix de Slow Train Coming, la fusion ou l'alchimie même qu'aurait donné une telle collaboration?
C'est vraiment un truc, ça serait excellent, mais bon, c'était pas fait, je sais pas pourquoi. Mais il y a des guitaristes aussi qui peuvent jouer à chaque style. Et tu lui dis, joue un petit peu à la B.B. King, il a le fait. Mais ça, c'était pas vraiment un côté Mark Knopfler, parce que Mark Knopfler était pas un guitariste du studio qui maîtrise chaque style.
Ouais.
Il était lui-même. Et ça m'a assez surpris qu'on lui a imposé ce style. Mais bon, il l'a fait et il l'a fait assez bien, je trouve, le Albert King.
Richard Kushley, tu affirmes, page 272, pouvoir distinguer J.J. Cale de Mark Knopfler à l'oreille, dans n'importe quel contexte, même dans un test à l'aveugle, et surtout avec des enregistrements inconnus. Alors, je te prends mot, est-ce que tu es OK pour faire un petit blind test avec deux titres, deux extraits musicaux, là, en live?
Oula, c'est un petit peu, oui. Alors là, j'ai voulu, oui, j'ai pris un risque, alors, on va dire. Hein.
Allez, on prend le risque, on joue, on est joueur.
Donc,
J.J. Cale ou Mark Knopfler ou quelqu'un d'autre. Je te fais écouter le premier extrait, puis tu interviens quand tu veux.
OK.
Become much clearer through the years. We gathered round the boy in his army clothes, said goodbye, and his mother shared her tears.
Voilà, c'était surtout au niveau de la guitare au début. Par contre, le chant, bien sûr, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Tu as peut-être reconnu, Richard?
Oui, mais alors, je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est ni l'un ni l'autre.
C'est ni l'un ni l'autre, on est bien d'accord. Et c'est vrai qu'on va rappeler aux auditeurs que tu es au téléphone, tu n'es pas dans le studio, tu es à plusieurs centaines de kilomètres d'ici.
Ouais.
Donc c'est pas forcément évident. Quelques secondes encore si tu veux.
Then it came across the ocean. It was hard to understand the awful news. And I don't know why I still.
Voilà Richard, pour le premier extrait. Alors, est-ce que tu as deviné de qui il s'agit ou pas forcément?
Mais j'ai une idée, mais ça pourrait être...
Si je te dis Polk Saladani...
Ah non, le nom ne me dit rien.
C'est pas grave, c'est Tony Joe White.
Ah si, Tony Joe White.
Voilà.
Ah d'accord, ouais, ouais, d'accord. Ouais, Tony Joe White. Et d'ailleurs, j'ai même encore réfléchi de éventuellement vouloir écrire un livre aussi... sur lui, mais bon, je le connais pas encore comme les autres, mais il m'intéresse vraiment aussi, et lui, il est vraiment aussi dans cette culture.
C'est ça, c'est pour ça.
Il est encore un petit peu plus dans le blues que les deux, que Mark et J.J. Cale, mais je l'adore aussi, absolument. Ouais.
Alors, deuxième extrait, Richard, si tu es prêt.
Ok. Oh bon, ouais, d'accord. Ouais, ça c'est... Alors là aussi, ni l'un ni l'autre.
On est d'accord.
Ouais, ça c'est moi.
Voilà.
Ok. Ouais, c'est un morceau de mon album Layback de 2008.
C'est ça, exactement. Richard Kushley and the Blues Roots Company, Layback, des racines du blues à l'âme du folk rock. Avec, si je peux me permettre, au niveau de la voix, des réminiscences d'un certain Stéphane Echer, je trouve.
Oh, je sais pas, oui. Mais bon, quand un Suisse qui est aussi un fan Dylan chante français, c'est tout de suite, on est un petit peu dans le même coin.
C'est vrai.
Que Stéphane Echer. Mais c'est vraiment. C'est pas voulu. Non, mais là, je pense, c'est plutôt Dylan là, qui m'a
aussi, c'est vrai,
qui
c'est
m'a inspiré avec cette façon de phraser les mots et tout ça. Mmh.
Alors on va revenir à ton ouvrage, Richard, et on va parler un petit peu de David Knopfler et puis de son départ de Dire Straits. Tu cites Mark Knopfler, et là ça va être violent, hein. C'est toi qui mets ces mots dans la bouche de Mark Knopfler. Je me fiche de ce que tu joues, tu peux bien jouer ce que tu veux, bordel, ça ne fait aucune différence. Comment expliquer une telle violence dans cette phrase?
Oui, ça m'a aussi un petit peu choqué, mais c'était le manager qui a raconté l'histoire, alors elle va être vraie, je pense. Elle est vraie. D'un côté, elle me choque un petit peu, mais je me dis aussi, c'est pas vraiment un truc méchant, parce que ça veut simplement dire quand un artiste est vraiment sûr de lui et qu'il est vraiment dans le morceau, et il a cette grande volonté de créer. Et si quelqu'un est là et qui le gêne, il peut être vraiment agressif même. Parce que la création qui est stoppée ou qui est bloquée, ça peut la rendre agressif. Et je pense que c'était un instant où il voulait simplement dire « Laisse-moi faire, je sais exactement comment le morceau doit être. »
Oui, ça, s'il avait dit ça, ça aurait peut-être été un peu plus politiquement correct, quoi.
Oui, mais bon, c'est aussi l'histoire entre les deux, entre les frères qui ont eu leur relation entre eux, et ça a explosé. C'est un petit peu choquant, mais il ne faut pas exagérer quand même non plus. Ça fait partie de la vie qu'on parle à ses proches aussi comme ça, des fois, quand on explose. Alors moi, je le juge avec modération.
Gonna be without me. Richard Cushing, le meilleur album de Dire Straits, pour toi, si j'ai bien lu, hein, malgré toutes les qualités que tu reconnais aux autres albums, ça semble être Making Movies.
Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?"
En quoi est-ce que cet album sort vraiment du lot?
Exactement, c'est Making Movies, et d'ailleurs, le vendredi là qui arrive, cet album a son 45e anniversaire. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est aussi, je pense que c'était l'instant où Mark Knopfler et Dire Straits, ils ont réussi à être vraiment eux-mêmes, ils ont quitté seconde inspiration de T.T. Cale. Ils ont trouvé aussi le côté clavier, du piano, et aussi l'influence de Bruce Springsteen qui a un petit peu fait ce virage aller dans une musique plus complexe que les deux albums qu'ils ont fait avant. Et je trouve que c'était un album clé, et aussi avec quelques chansons vraiment, et des chansons comme Tunnel of Love ou Romeo et Juliette, qui ce sont des chansons qui ont encore une grande valeur aujourd'hui.
C'est ce qu'on appelle des masterpieces, en fait, c'est ça,
hein? Exactement.
Alors, on peut parler du pianiste Roy Bittan, qui a largement contribué, tu l'as dit, et tu l'écris, au son et à la couleur de cet album, et même quand son jeu se fait discret, comme justement dans Romeo et Juliette. Est-ce que tu peux nous expliquer, Richard Cushing, à quel point le talent d'un musicien peut influer sur la qualité intrinsèque d'un titre lambda, même quand il est discret?
Oui, là encore, c'est les clavistes ont un petit peu ce rôle de marquer la musique, mais sans être même les chefs ou les frontmen. Et je trouve que Roy Bittan a vraiment marqué cette musique avec ses notes de piano, avec vraiment des trucs très subtils. Et c'est aussi ce que après d'autres ont fait avec Mark, Alan Clark et tout ça. C'est très important, le claviste, le keyboarder, il a vraiment, c'est un musicien clé dans la musique, qui arrange et qui marque.
D'ailleurs, page 315, ton chapitre commence par Roy Bittan, le coup de chance. C'est le coup de chance qui leur est arrivé à Dire Straits.
Ah oui, oui, absolument. Parce que c'est là où ça a commencé à changer, vraiment.
Malgré le départ de David. Ouais.
Searching everywhere from steeplechase to palisades. in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away, walk away from color coats and Whitley Bay. Had to walk away. And girl, it looks so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when we were kids. Girl, it looks so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when I
Richard Koechlin, j'ai des questions plus générales maintenant à propos de la personnalité de Mark Knopfler. Richard, qu'est-ce qu'il faut retenir qui explique sa longévité, son autorité et sa légende à la fois?
Oh, ça c'est une question difficile. Je pense que c'est cette passion de créer et cet art de narration, tout ça. Et après, cet grand art de guitare, évidemment. Et aussi, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et qui marque chaque morceau à sa façon. Et c'est le mix idéal de quelqu'un qui a trouvé son chemin et qui est sensible et qui observe le monde avec une grande empathie.
Richard Koechlin, comment est-ce que tu qualifierais la voix de Mark Knopfler à l'époque du début de Dire Straits et actuellement?
Je crois qu'il a vraiment commencé aussi avec cette grande inspiration de Dylan. On le sent, il a aussi cette façon d'articuler tout ça comme Dylan. Oui. Et après, peu à peu, il a essayé de trouver sa voix. Et là maintenant, actuellement, il chante comme un vieux bard de folk, avec une voix simple, modeste, avec une grande intimité, chaleur, tout ça. Mais il a une voix, normalement, on ne la trouve pas tout de suite, on la cherche.
We are leaving, leaving, leaving on the tide. Come and stand beside me, love, the water is so wide. You can hear the sailors calling at the dawn of the day. Yesterday is falling, love is just sweet as rain. Just sweet as rain.
Richard, le mois dernier, on a pu voir un certain Richard Thompson en concert, donc un garçon qui est né en 1949 également. Comment est-ce qu'on peut expliquer que quelqu'un comme Richard Thompson, avec tout le talent qu'il avait et qu'il a toujours, n'ait pas réussi à percer tout comme Mark Knopfler l'a fait?
Oui, mais là, il y a les grandes questions, le marché de la musique, comment il fonctionne. C'est aussi une question de chance. Est-ce qu'on connaît les bonnes personnes? Je ne sais pas. C'est un secret pourquoi il y en a quelqu'un qui réussit et d'autres non. Je ne sais pas juger ça. C'est aussi, c'est pas tout le monde est fait pour être une star aussi, j'ai l'impression.
Oui, complètement. Oui. Quels artistes aujourd'hui, en 2025, prolongent selon toi le mieux l'œuvre de Mark Knopfler, si tant est que cet artiste ou ces artistes soient déjà nés d'ailleurs, c'est pas sûr.
Ou alors ça, il est encore vivant, hein, Mark Knopfler.
Alors il est encore actif, mais
il ne donne comme héritage.
Et il ne donne plus de concerts par contre, donc c'est
oui,
ça un petit peu.
Oui, d'accord, ouais, il y en a tellement. Je pense qu'il a laissé une marque qu'on écoute dans différents types de la musique. Et j'ai même pas envie de citer des noms parce qu'il y en a tellement.
Ah oui, d'accord.
Qui ont un petit peu de Mark Knopfler dans leur jeu et de Gigi Cale aussi, évidemment, parce que ça a commencé par là.
C'est indissociable en fait. Hein.
Ouais.
Il y a une question aussi, mais là on va aborder une réponse très personnelle, la tienne en l'occurrence. Qu'est-ce que tu penses de cette mode des tributes et notamment il y a des tributes à Dire Straits qui fleurissent un peu partout. Est-ce que tu en as entendu et si oui ou sinon, qu'est-ce que tu en penses d'une manière générale?
Ça existait toujours, hein. Ça s'appelle des cover bands ou des top 40 et tout ça. En Amérique, ça existait toujours. Et dans la musique classique aussi, on le fait, on joue les œuvres qui existent. Je ne suis pas contre ça. Il y a des groupes qui veulent ça et il y a des groupes qui font ça vraiment avec du talent. Mais ce n'est pas mon truc, je ne sais pas faire ça. Quand je joue un morceau qui n'est pas à moi, mais j'essaye toujours de le transformer, de le changer un petit peu et j'aime pas absolument identiquement jouer des trucs, mais si quelqu'un aime ça, c'est excellent et ça fait plaisir aux gens aussi. Et maintenant que Mark Knopfler ne joue plus aux scènes, ça peut un petit peu le remplacer même.
Oui, donc ça a du sens à partir du moment où l'artiste original ne se présente plus devant son public, c'est ça que tu veux dire aussi peut-être?
Exactement, oui. Et c'est une façon de célébrer une culture. Il existe des groupes qui jouent tous, chaque grand star a ses cover bands, ses tribute bands. Et aussi comment les gens ils aiment un artiste.
Ouais,
je trouve ça c'est un petit peu la même chose qu'écrire le livre aussi. C'est notre façon de célébrer.
Tout à fait.
Muscles than I am with my mouth. I work the fairgrounds in the summer. Go pick fruit down south.
Il me reste deux questions, Richard, justement à propos du tome 2. On évoquait ça en début d'émission. Tu es en train de collecter les informations qui vont servir à sa rédaction. Donc pour 2026, on l'espère, peut-être sous le sapin de Noël en 2026, ou peut-être pas encore, peut-être plutôt 2027.
Non, moi, je vais me foncer maintenant, t'inquiète pas.
Ah, d'accord.
alors, le but est vraiment que c'est 26, mais je ne sais pas, peut-être été ou
d'accord,
26.
Très bien.
Mais je vais avancer parce qu'il faut aussi profiter de cet instant que les gens ils attendent, le tome 2, que l'énergie est là. Et quand on attend trop, après, ça perd un petit peu d'intérêt pour les gens, je pense.
Vrai. Dernière question, Richard Keschli. Quels sont tes autres projets en ce moment? Tu disais en début d'interview te consacrer moins à la musique, moins à la scène et davantage à l'écriture. Est-ce qu'il y a quand même l'espoir d'un nouvel album bientôt ou c'est pas encore à l'heure du jour?
Ça veut dire que dès que le livre, le tome 2 est écrit, je voudrais vraiment enregistrer un nouvel album, ça c'est sûr, mais c'est une question de temps et de moyenne aussi.
Et pourquoi pas un album live comme tu l'as déjà fait en 2013?
Ou Oui, d'accord, mais ça veut dire aussi créer des chansons, des nouvelles chansons d'abord, parce que j'ai des enregistrements, mais c'est les chansons que les gens connaissent déjà.
Ouais, ouais.
Et je sais pas encore exactement en quel style, mais je pense que ça va être assez rock aussi, assez tonique. Oui, j'aimerais montrer que je suis pas que le musicien doux et gentil et tout ça.
D'accord.
Ouais.
Bart Knopfler, l'analyse d'une œuvre, Bard Celtic, guitar héros, médoliste sensible, superstar. Un livre signé Richard Kushly, 545 pages pour le premier tome, un deuxième tome à paraître en 2026. Question basique maintenant, comment se procure-t-on cet ouvrage? Il est bien distribué, je pense que ça pose pas de problème. Je me mets toujours à la place des auditeurs qui veulent acheter l'album ou le livre dont on parle. C'est important de prolonger ça aussi par la lecture, parce qu'il faut vraiment se plonger, le reprendre en plusieurs fois. C'est pas un livre qu'on va lire d'une traite, hein. C'est un ouvrage encyclopédique avec beaucoup de détails, avec énormément de feedback, avec des rebondissements sur ta propre musique. Enfin voilà, c'est un livre à la fois personnel, à la fois universel, que j'ai trouvé merveilleux. Et comment se procurer ce livre, Richard?
Merci Marc, d'ailleurs.
Ça me
touche ce que tu dis. Oui, le livre, il est dans toutes les librairies online, tout ça, aussi Fnac, Amazon, Cult. Il y aura partout, on peut le commander. Et les infos, vous les avez sur mon site web, richardkushly.ch. Et Richard Kushly en un mot. Et c'est K-O-E-C-H-L-I, Kushly.
Très bien.
C'est écrit comme ça. Et là-bas, il y a les liens aussi vers les vendeurs, il y a les infos, tout ça.
Et pour info, nous qui sommes une radio française, il y a trois de tes ouvrages qui sont traduits en français. Celui sur Mark Knopfler, tome 1. Celui sur J.J. Kell. Et le troisième, c'est...
Holy
Blues. Voilà,
oui,
c'est
voilà,
ça.
Exactement. Voilà. Je vois un peu presque pas. Ouais.
Holy
voilà.
Blues dont on avait parlé à la radio.
What's the telegraph rule?
Il me reste à te remercier énormément, Richard, pour toute la richesse de cette interview et ton analyse vraiment profonde de l'œuvre d'un garçon comme Mark Knopfler. Et puis, tu ne manqueras pas de me faire part de l'apparition du tome 2, que je puisse t'inviter à nouveau en 2026, j'espère.
Oui, Marc, merci beaucoup aussi pour ton intérêt, pour ta patience. Mais je ne suis pas un grand narrateur quand je parle, on le sait, comme bégayeur, mais écrire, c'est autre chose à commencer. Et merci beaucoup à toi et à les gens qui nous écoutent et je vais te faire connaître les infos. Hein.
Parfait. À très bientôt, Richard.
Allez, merci
beaucoup.
Marc.
Au revoir. Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Merci. Merci encore à Richard Kushly. On a pu écouter à travers cette interview pas mal de la discographie bien sûr de Dire Straits, l'album communiqué avec le titre album Once Upon a Time in the West, Portobello Bell, News, Where Do You Think You're Going, Romeo and Juliet, Tunnel of Love, Expresso Love, Walk of Life sur l'album Brother in Arms, et puis également J.J. Cale avec The Woman That Got Away, Eric Clapton pour Wonderful Tonight, Dom Ferrer and the Bad Jokes on a Tear, Eric Clapton et J.J. Cale avec Missing Person, Bob Dylan pour Gotta Serve Somebody, et puis on a eu la version de Richard Kushly de ce titre de Bob Dylan, Gotta Serve Somebody, Bob Dylan à nouveau pour Slow Train, Tony Joe White pour Lake Placid Blues et Richard Kushly and Blue Roots Company avec Mr. Marketing Mag. En fait, les deux titres du blind test pour Richard. Et puis Je suis désolé de Mark Knopfler, Get Lucky également. Et là, on est en train d'écouter Telegraph Road. C'est avec ça que se termine ce 1296e Sweet Home Chicago. On est en 1982 sur l'album Love Over Gold.
but they shut it down. I got a right to go to work, but there's no work here to be found. Yes, and they say, we're gonna have to pay what's owed. We're gonna have to reap from some seed that's been sowed. And the birds up on the wires and the telegraph poles, they can always fly away from this rain and this cold. You can hear them singing out the telegraph code all the way down the telegraph road.
On va se retrouver samedi prochain avec de nouveaux invités. Il s'agit pour la première heure de Nicolas Midiani pour My Rockers numéro 64, où il a choisi Neil Young. Et en deuxième heure, Olivier Mas pour sa carrière et son actualité. Salut, bye bye.